Bonjour à tous et bienvenue dans les projets du web, le podcast qui vous parle de tous les projets naissants sur le web. Aujourd'hui, nous enregistrons l'épisode numéro 7. Enfin, nous voici de retour après une longue absence. Alors, avant de commencer cet épisode, je tenais quand même si je ne vais pas m'attarder sur le sujet, à vous expliquer un tout petit peu les raisons de ce trou, mais de cette absence, on va dire. Donc Alex, qui m'accompagnait jusqu'à présent dans les sept premiers épisodes, il y a eu HS d'ailleurs, a décidé de mettre fin à sa carrière de podcasteur et à se consacrer un peu plus à sa famille, se couper un petit peu du web, une décision très saine s'il en est. Et donc j'ai décidé de malgré tout tenter l'aventure en continuant ce podcast. J'ai longtemps cherché un chroniqueur pour m'accompagner, et aujourd'hui, aux surprises, j'ai été contacté par l'un des pères fondateurs des projets du web, en la personne de Mathieu. Bonsoir.
Bonsoir.
Je peux dire père fondateur.
Quelle introduction.
Hein.
Oui, bon, tu peux. Après, je ne sais pas quelle légitimité j'ai, mais oui, en effet. Bonsoir à tous d'abord. Et grand retour aux sources.
Content d'être là, ça fait quand même quelques années maintenant.
Ça fait quelques années, oui, on est en 2015, j'ai dû arrêter en 2011 et débuter cette aventure quelques années avant. Donc ravi d'être à nouveau derrière le micro, un exercice pas forcément évident, surtout quand on s'est arrêté, quand on a un peu perdu l'habitude. Donc j'espère que ça va pas être complètement décousu, mais non, ravi d'être de retour. Alors, et surtout avec toi, puisque je me souviens que je t'avais laissé le bébé il y a presque un an, c'est ça? Non, un peu plus.
C'est ça, il faudrait que je retrouve aussi les dates, en effet, mais je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là. Mais justement, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas et situer quand même un petit peu le contexte, Mathieu est quand même le créateur original du concept, les projets du web. C'est toi qui avais débuté l'aventure en 2009, c'est ça qu'on a vu?
Exactement, ouais, 2009.
Je triche un peu, on a vu avant l'enregistrement.
on a un peu fait l'historique, merci archive.org.
Très bon service web d'ailleurs.
A priori, 13 octobre 2009, premier épisode des projets du web. Un peu avant ça, le projet avait été mûri et le site avait été lancé. Donc voilà, ça commence à faire un petit bout de temps. C'est beau, ça fait plaisir de voir que le projet s'est pas complètement éteint.
Même s'il n'y a pas un aussi grand nombre d'épisodes, on peut dire quand même que c'est un très vieux podcast maintenant. Ça fait quand même,
exactement.
Ça fera 6 ans à la fin de cette année que les projets du web existent.
Exactement.
Alors pour info, parce que tu en parlais, je viens de vérifier, avec Alex, nous avons récupéré le projet en novembre, à la toute fin, novembre 2013.
D'accord, c'est ça. Donc il y avait eu une interruption effectivement entre les deux, avant que vous me recontactiez pour poursuivre. Enfin voilà, on va peut-être pas, je te laisse continuer, mais pour les gens qui nous écoutent, pour que cette voix, pour ceux qui ne se souviennent pas de ma voix, effectivement, j'étais là au commencement.
Voilà, et juste après on termine là-dessus, mais petite interrogation même personnelle, c'est toi qui avais eu l'idée à la base et qui avais présenté les projets de web avec plusieurs connaissances en fait.
Alors, à la base, à la toute base, pour information, alors vous pourrez du coup avec quelques petits calculs intelligents retrouver mon âge, je devais être en terminale à cette époque-là, et j'étais absolument seul pour débuter ce podcast, pour les quelques premiers épisodes, je crois deux ou trois premiers épisodes, j'étais seul. À la suite de ça, rapidement, j'ai été rejoint par deux personnes sous le doux pseudonyme de Comfis et Lucus. Je sais pas si on peut, je me souviens plus si on pouvait dire leur prénom, mais ces deux personnes-là m'ont accompagné assez longtemps, quasiment jusqu'à la fin, du moins la fin pour moi, donc avril 2011. Et voilà. Mais non, le projet avait été commencé dans ma chambre en 2009 et j'étais absolument seul.
D'accord, ben les gens trouveront s'ils cherchent sur Twitter les prénoms de ces deux personnes, enfin de Lucus, en tout cas il est sur Twitter, c'est grâce à lui que j'ai pu te contacter.
Bon, exactement.
Entrons maintenant dans le vif du sujet, après cette petite intro, on va pas non plus s'éterniser des heures. Si vous avez des questions, commentez ou demandez par Twitter, on sera plaisir de vous répondre. Et donc on va entamer cette nouvelle émission avec une structure qui s'approche assez fort de ce qu'on faisait avec, avec Alex, puisqu'on va commencer par des news du web au sens large, au sens général du terme. On ouvrira ensuite sur quelques news qui parlent de crowdfunding, et on mettra en lumière deux projets qui nous ont marqués, dont on a envie de parler un peu plus en détail et sur lesquels on a envie de s'attarder. Ça va pour toi ? Tu es prêt ?
Ça va pour moi. Allons-y.
Eh bien, vendu. Alors, je vais commencer les news avec deux mauvaises nouvelles. J'avais envie, voilà, avant de... Je plombe l'ambiance comme ça d'entrée, comme ça c'est fait.
Oui, je vois ça.
Après, on passe sur ce qui est positif. La première, c'est eBay, qui est quand même un des géants du web, qui a confirmé la suppression de 2400 emplois. Donc, c'est quand même pas rien. Alors, on se souvient, il y a quelques mois d'ici, qu'ils avaient décidé de rendre à PayPal son indépendance. Est-ce que c'est peut-être un signe précurseur qu'il y a quelque chose qui se passait mal, je crois qu'on peut le dire.
Oui, je pense qu'a priori, c'est une information connue, mais que tout ne se passait pas forcément très très bien. De là à supprimer 2400 emplois, je pense pas que c'était quelque chose qui était attendu.
Surtout que, bon, les communiqués, ça c'est toujours une chose, hein. On parle de pertes liées à des charges fiscales, des choses un peu, voilà. Mais les faits sont là, eBay n'est plus peut-être aussi glorieux que par le passé. Est-ce que c'est peut-être, je sais pas, la faute à une interface un peu vieillissante, des concurrents gratuits Je me pose un peu la question et je me demande quel avenir réellement il y a pour eBay. C'est vrai que par exemple, moi, quand je dois mettre en vente quelque chose maintenant sur Internet, j'ai de moins en moins tendance à passer par eBay, simplement par la complexité déjà du truc. Je sais pas si tu as essayé de sélectionner déjà une catégorie sur eBay quand tu vends un truc, c'est juste
en fait, je pense qu'ils ont un peu le pendant du site usine à gaz qui est devenu peut-être trop gros, trop présent. Et enfin, moi, ma compréhension en tout cas du phénomène, elle est double. Ou en tout cas, les raisons que je pourrais comprendre de ce phénomène, elles sont doubles. D'une part, il y a quand même des acteurs peut-être plus locaux, type Le Bon Coin, et je suppose qu'il y en a dans d'autres pays, qui sont beaucoup plus pertinents. Et le réflexe, en tout cas dans mon entourage, ce que je vois, des personnes peut-être moins technophiles auront le réflexe Le Bon Coin peut-être beaucoup plus rapidement. Ça c'est une chose, et puis dans la concurrence alors locale mais voire internationale, je pense qu'on peut pas négliger non plus Alibaba, qui à mon avis a dû leur faire quand même un sacré mal, parce que on a vu que, je crois que dans la news que tu avais partagée, il était montré qu'en 2013 eBay dégageait encore des bénéfices, ce qui n'est plus le cas en 2014. Il y a des pertes sèches. Je sais plus à combien de millions de dollars, mais oui, non, je pense que la concurrence est rude, et la concurrence est peut-être moins un mastodonte qu'on comprend plus vraiment, difficile d'appréhender.
Ben pour répondre à ta question, c'est 41 millions de dollars, soit environ 35 millions d'euros de pertes sur 2014. Donc c'est quand même voilà, c'est pas des entreprises qui s'en sortent avec beaucoup plus, voire qui ne gagnent pas d'argent, mais bon, c'est quand même non négligeable de remarquer qu'ils passent à un bénéfice
voilà, à c'est ça. C'est plutôt le delta d'une année à l'autre qui est inquiétant, enfin c'est plutôt le signe qui est inquiétant, que véritablement le chiffre en tant que tel, mais passer d'un bénéfice à une perte en une année et creuser cet écart de manière assez importante, et en plus de ça avoir des signes type on se sépare de PayPal, c'est pas toujours très rassurant en règle générale, je pense.
C'est pas rassurant ni aux yeux du public ni aux yeux des investisseurs, et ça aussi ça joue pas mal. Maintenant ici pour ce qui est du local, effectivement c'est de ça dont je parlais. eBay, quand je vends sur eBay en tout cas, j'ai une impression de complexité énorme, de jamais arriver à trouver les sections adéquates, t'es obligé de taper un numéro de série, un modèle d'une section complètement obsolète, tu veux vendre une tablette par exemple, t'as même pas une section dédiée, c'est dans high tech informatique ou tu sais pas trop. C'est vraiment, ça semble vieillot et mal adapté. Et puis surtout, voilà, ils prélèvent des frais. Toi, tu parlais du Bon Coin qui est typiquement français. En Belgique, on a deuxièmemain.be que les Belges connaîtront très bien, qui, pareil, s'organise par région et permet de vendre directement, comme un peu les petites annonces qu'on avait avant dans les journaux. Donc, on retrouve ce côté proximité, facilité. On remplit les champs comme on veut, on met notre numéro de téléphone et voilà, tout se fait sans.
Mais d'autant plus que c'est, en tout cas dans le monde réel, puisque historiquement, la petite annonce que ces systèmes-là étaient censés remplacer, le principe même de la petite annonce, c'est la simplicité, la proximité, le gage ou l'assurance qu'on a entre le vendeur et l'acheteur se fait par nous venons du même environnement géographique, nous connaissons parce que nous évoluons dans le même univers, et du coup la communication se fait plus simplement. Le problème de passer par eBay, c'est qu'on sait qu'on passe par une plateforme qui va donner de la visibilité à l'international, et on n'a pas forcément envie de passer pour ce type d'annonce typiquement par ce type de système. Et je pense que c'est ce côté local qui manque crucialement.
En fait, ce qu'il y a aussi, c'est que selon moi, eBay a un business model un peu différent. Ils se sont lancés il y a quand même quelques années maintenant, où pour pouvoir subsister, ils se devaient de prélever un petit pourcentage des annonces. Et donc pour ça, ils sont obligés de rester enfermés dans leur système, d'enfermer les gens dans leur système. Pour être sûr que quand l'annonce est clôturée, elle se soit bien effectuée sur eBay, qu'il y a bien eu une vente, et que donc ils peuvent récupérer le pourcentage. Un système comme Le Bon Coin ou comme Deuxièmement en Belgique, tu mets ton numéro de téléphone, la personne te téléphone, le site en question, tu vas supprimer l'annonce, il ne sait jamais vérifier que ça s'est exécuté sur son site. Mais eux ne se rémunèrent pas au pourcentage.
Oui, en effet, ils avaient une posture de tiers de confiance plus, qui allait plus loin que le simple tiers de confiance et qui était même l'entremetteur et le garant de la transaction et de la qualité de la transaction. Sauf que, en fait, le pendant de ça d'ailleurs, c'est. Alors, j'ai pas de chiffres, mais je pense que eBay a eu tendance à amorcer une transition auprès de son public. Je vais très rarement sur eBay, pour pas mentir, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus, en fait, de vendeurs professionnels, oui. Ou en tout cas qui qualifient comme professionnels, et c'est un peu le phénomène qu'a produit eBay en justement complexifiant sa plateforme. Donc ça, c'est le constat côté vendeur, mais côté acheteur, ça dénote quand même d'une vraie différence entre la simple petite annonce et le site de e-commerce. eBay a peut-être eu tendance, selon moi, à basculer dans le site de e-commerce tout en n'étant pas un acteur historique majeur du e-commerce. Du coup, forcément, cette transition-là donne l'information qu'on est en train de communiquer, c'est-à-dire une vraie transition au niveau de l'entreprise, et donc des problématiques type suppression d'emplois, et donc peut-être plus forcément la même stratégie, en tout cas à mon avis.
Ouais, effectivement, oui. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de boutiques, plus que de petites annonces. C'est plus vraiment un site comme Le Bon Coin ou autre. Ça s'est petit à petit transformé. Ils ont essayé, à mon avis, de se dire c'est un marché qu'il faut coloniser, si je peux expliquer, je peux dire le terme.
C'est ça.
Et oui, effectivement. Là, sur ce point-là, t'as raison. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus, mais parce que sinon on va encore déborder. On va déjà déborder, puisque c'est le premier. Mais effectivement, c'est une bien mauvaise nouvelle. Et alors, pour continuer dans les mauvaises nouvelles, et comme ça, après, promis, je termine et je te laisse la parole sur des choses un peu plus positives.
Oui.
C'est un autre acteur du web, beaucoup moins majeur quand même, mais que je trouvais sympathique, qui s'appelle MyWittyGame. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler.
Ben justement, non, j'ai vu que tu avais posté cette annonce, mais j'aimerais bien que tu m'en parles un peu, parce que pour le coup, j'étais un peu inculte sur le sujet. J'ai rapidement regardé ce que tu avais mis, mais c'est vrai que...
Alors, MyWittyGame, c'est simple. En fait, c'est un site qui s'est lancé avec la passion des jeux de société. On sait depuis quelques temps que ça revient un peu à la mode. Moi-même, d'ailleurs, j'ai toujours adoré ça. Et... bon voilà, depuis quelques temps, comme ça, revient un peu à la mode, et que c'est un peu des jeux, on va dire, pas plus évolués, mais complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans les traditionnels Monopoly, ou... D'ailleurs que j'adore le Monopoly, hein. Monopoly, Cluedo, Pictionary, etc.
Et ben, je me permets de t'interrompre deux secondes, je viens de voir une news tomber il y a quelques temps, tu parles de Monopoly, je sais pas si tu es au courant que...
Avec les vrais billets, oui.
qui édite Monopoly. Voilà, exactement. On vient de lancer pour les 80 ans de la marque une boîte contenant des vrais billets en euros. Voilà, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais je
non,
pense
mais
que
de toute façon,
l'information.
il n'y a pas de souci. De toute façon, j'allais l'aborder pour terminer, donc tu fais bien.
D'accord.
Et donc ici, je disais, ben, MyWitty Games, c'était un petit éditeur indépendant qui s'était lancé sur Internet en se disant ben, voilà, qu'il y avait un credo à prendre, ce qui est le cas, parce qu'il y a énormément d'éditeurs qui fonctionnent à l'heure actuelle. Malheureusement, ça semble-t-il eu du mal à prendre, et donc ils ont décidé ici récemment de fermer leurs portes. Et donc pour rentrer dans leurs frais, pour pouvoir un peu liquider les créances, terminer sur une bonne base, ben, ils ont décidé de liquider un pack de jeux. C'est pour ça, c'est d'ailleurs comme ça que je les ai découverts, parce que je les connaissais de nom, mais je veux dire que je les ai redécouverts et que j'ai acheté des jeux chez eux, parce que oui, j'ai acheté. Et ils avaient notamment édité, pour la petite info, en partenariat avec Corben, qui est bien connu des gens qui fréquentent le web, corben.info.
Jetez-le.
Non, non, ça c'est pas...
C'est pas Corben, ça?
Non,
je
c'est...
Je mélange tout.
Je mélange avec... comment est-ce qu'il s'appelle? Qui faisait La Grotte du Barbu, le podcast.
Ah oui, exactement.
Ah, j'ai un trou extraordinaire. Les auditeurs nous corrigeront dans les commentaires. donc je disais Corben. Corben, bah, si tu veux, du podcast, en dehors de son blog, il fait upload avec Patrick Béja. Ils avaient fait, donc je disais en partenariat avec Corben.info, le jeu de société Hacking Party. Que je m'empressais de découvrir vu que je vais bientôt le recevoir, donc je vous ferai un petit retour. Mais donc voilà, une news un peu tristoune d'un acteur du web, donc une société qui avait décidé plutôt que de faire comme les autres et de se lancer dans des magasins physiques de proposer ses jeux uniquement sur internet. Ça n'a semble-t-il pas pris. Voilà, comme ça j'ai fini avec les bad news du jour.
Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour un dernier hommage, on peut acheter encore, je ne sais pas s'il y en a encore.
Non, je pense qu'il y en a
plus. Des disponibles.
Je pense donc, que c'est fini parce que c'est délimité. Je vais regarder de suite, comme ça je te dis. Ah si, il y en a encore. Donc si les gens, au moment où ils nous écoutent, veulent voir, je pourrais mettre le lien en commentaire de ce podcast.
Effectivement, c'est des tarifs récents. Là, je vois 50 euros au lieu de 130 euros.
Mais attends, on regardera en détail avant de poster. Je confirmerai ça dans le billet parce qu'il est marqué que l'offre est valable jusqu'au 31 janvier. Et on enregistre en date du 3 février.
Je vois que le stock est disponible. C'est tout ce que je peux dire.
Oui, mais l'offre est valable jusqu'au 31 janvier. C'est donc un peu bizarre. Voilà. Bref.
Bon, à vérifier. Mais si les gens qui nous entendent lisent les notes de l'émission, ça sera marqué. On aura confirmé l'information. Et on pourra vous dire si vous pouvez encore profiter de cette offre et on souhaite bonne route aux gens qui ont fondé ce.
Voilà. Moi, je vous ferai de toute façon un petit retour quand j'aurai reçu les 4 jeux en question, histoire de, je vous ferai un rapide retour pour vous dire si c'était sympathique ou pas. Bon, pour embrayer un peu sur des choses positives maintenant, hein, tu vas nous parler
positive.
De Pirate Bay.
Voilà, positif, question de point de vue.
Moi, je trouve que c'est positif.
Mais c'est partagé par moi, en tout cas. A priori, pas pour tout le monde. Petit rappel, parce qu'effectivement, Pirate Bay vient de réouvrir. Donc là, au moment où on enregistre, ça fait un jour à peu près que le site vient de réouvrir. Pour rappel, en décembre dernier, à peu près, la police suédoise a mené une opération à Stockholm en invoquant une violation des droits d'auteur, évidemment. Et suite à ça, ils ont perquisitionné l'ensemble des serveurs, ou en tout cas une grosse partie des serveurs et des équipements de The Pirate Bay. Voilà, on avait compris que le site serait fermé. Assez rapidement, il y a eu un certain nombre de clones du site qui ont émergé.
Il y a eu notamment, comment est-ce qu'il s'appelle ? Un très gros site de torrent qui s'amusait à cloner en premier.
C'est bleu, torrent, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais effectivement, il y a eu un certain nombre de clones qui ont émergé. Un mois plus tard, le DNS, enfin le nom de domaine, était à nouveau pointé à nouveau vers un site, mais qui ne permettait plus de faire la recherche, mais qui affichait une page avec un immense drapeau de pirate disant nous ne sommes pas morts, nous reviendrons.
Iso Hunt, j'ai trouvé, excuse-moi, je t'ai trompé. Iso Hunt, c'est eux.
Exactement.
Qui ont lancé le premier clone de Pirate Bay.
Tout à fait. Donc il y a eu d'abord un ensemble de clones qui ont émergé. Le nom de domaine .se qui a à nouveau repointé vers une page statique, donc qui commençait à teaser un retour éventuel. Et depuis quelques semaines, on entendait parler, la page commençait à se réalimenter au fur et à mesure du temps, même au niveau de la, je sais pas si tu as suivi, en fait, si tu allais régulièrement sur la page, mais ils commençaient à remettre les fonctionnalités, mais ils ne les laissaient pas actives.
Le phénix est rené de ses ondes.
Avec le phénix, un certain nombre de choses, le bateau qui revenait à quai. Et le site vient de réouvrir sur le même nom de domaine. Donc, véritable pied de nez aux autorités suédoises et à toutes les autres. Donc voilà, le site est de retour. Petite information et un élément à modérer, c'est qu'en France, les autorités ont quand même voté le blocage DNS. Donc a priori, si les opérateurs suivent le mouvement, parce qu'il y a eu une action des syndicats d'ayant droit, si les autorités suivent le mouvement et si les opérateurs acceptent, ou en tout cas suivent le mouvement eux aussi, les DNS risquent d'être bloqués, donc le nom de domaine ne serait a priori plus accessible.
Alors,
Dans assez peu de temps.
Je vais apporter une précision par rapport à ça, fait une précision, non, pas une astuce, mais voilà. En Belgique, il faut savoir que depiratebay.com est bloqué depuis, je sais même plus combien de temps, ça fait des mois. Des mois que quand tu tapes, tu arrives sur une page, oui, je sais pas pourquoi, .com, c'était un nom de domaine qu'ils ont eu à un moment, quand tu arrives sur une page qui écrit que ça a été bloqué par parce que ça contient des informations illégales, par rapport à la législation belge,
et voilà, ça met le logo, point .se, par contre, en Belgique, a suivi la même évolution.
Alors, le point SE n'était pas accessible pendant un moment. Depuis le retour, le point SE est accessible, par contre. Aussi étonnant que cela puisse paraître, alors qu'il était bloqué comme le .com. Donc voilà, ne me demandez pas pourquoi. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités, soit un VPN, voilà, on peut se compliquer la vie. Mais une simple recherche Google vous donne généralement, pour ceux qui ont vraiment envie, des liens de miroir ou de redirection du genre de piratebay.to, de piratebay. Il y a toute une flopée qui vous permet de toute façon d'y accéder. Donc le blocage DNS, c'est bien marrant, mais c'est pas ça qui va changer grand-chose.
D'ailleurs, c'est plus ou moins la conclusion de la news. Ça prouve bien qu'en fait, n'importe quelle action judiciaire... Alors, on parle du blocage DNS qui est déjà qui est déjà très limité, mais alors même des opérations policières, notamment en Suède, qui vont jusqu'à la perquisition des serveurs, n'ont finalement quand même que très peu d'impact. Et donc on est bien conscient que sur le web, le fonctionnement n'est pas le même. Après, moi je veux pas particulièrement faire un constat de c'est bien, c'est mal ou quoi que ce soit, mais on se rend compte que de toute manière le fonctionnement n'est pas le même et que la législation en tout cas en l'état n'est pas du tout applicable, la législation classique n'est pas du tout applicable sur le web et qu'aujourd'hui ces sites restent accessibles pour le bonheur de certains et le malheur de certains autres.
Bien ou mal, c'est vrai que le débat n'est pas tellement là et on ne va pas argumenter là-dessus, on a chacun voilà, notre avis, nos opinions, ça reste illégal dans la plupart des cas, oui et non, mais si, voilà. Mais toujours est-il que les solutions qui sont proposées
ne sont pas adaptées.
Voilà, c'est pas adapté, c'est pas applicable, ça fonctionne pas, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à retenir. C'est... Voilà. Donc, pour ceux qui aiment au passage de Pirate Bay, je sais pas si tu as déjà vu le documentaire à leur sujet sur, qui s'appelle le Waveform Keyboard, si je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Qui, franchement, vaut le coup d'œil. Il faut quand même avouer une chose, ils sont trop forts. Hein. Franchement, le nombre de fois où ils se sont pris des procès, où ils ont eu des perquisitions de serveurs, ils sont toujours là. C'est
sûr que ce qui est intéressant, notamment, alors on va pas s'étendre encore une fois, mais dans ce reportage, c'est que on voit qu'il y a des motivations derrière qui sont autres que je veux embêter les ayants droit, je veux voilà, c'est des motivations presque plus nobles. Alors certains ont peut-être du mal à le voir comme ça, mais plus nobles que ce qu'on veut bien nous laisser croire quand on entend juste le journal de 20h nous expliquer que le piratage c'est mal. Et voilà, donc voilà, ça permet de nuancer un certain nombre de propos, et je pense que c'est intéressant de le voir pour se faire sa propre opinion.
Mais il faut reconnaître vraiment, voilà, ils sont trop forts. Moi, c'est vraiment la chose qui me vient à chaque fois à l'esprit. C'est quand même extraordinaire d'être toujours sur pied. Bref, news suivante. On déborde. Mais bon, c'est pas grave, c'est un premier jet, donc vous nous pardonnerez si on dure un petit peu. J'avais envie de vous parler d'un truc, bon, pour moi, un peu plus court. Je pense que c'est un... quand même marquant, je veux dire, pour les gens qui connaissent bien le web, qui le fréquentent beaucoup, et c'est quand même une des plateformes les plus connues du web, même si personnellement, voilà, je n'y suis pas, ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est 4chan, c'est quand même assez connu sur Internet, notamment pour leurs nombreux bashings. Le plus récent en date, c'était Zoe Quinn, la développeuse de jeux vidéo, pour ceux qui ont un peu suivi. C'est là-dessus que sont apparues les photos leakées de Starnu, c'est là-dessus, enfin, il y a eu... on va pas commencer à énumérer, mais toujours est-il que l'administrateur de 4chan, assez célèbre, dont le pseudo est Moot et le nom est Christopher Poole, voilà, je l'ai ici, qui est le créateur de 4chan, a décidé de quitter le navire face à la pression de sa communauté. Donc voilà, c'est un phénomène quand même assez marquant pour ceux qui connaissent. Moi, c'est vrai que je connais pas trop bien 4chan, je dois quand même l'avouer. Je sais un peu leur fait d'armes, si on peut parler comme ça, sans plus de détails. Mais non, ce qui est quand même à noter, selon moi, c'est qu'il s'est quand même un peu aussi fait prendre à son... je vais pas dire à son propre jeu, parce que c'est peut-être pas son jeu à lui. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu plusieurs, 4chan a commencé à se faire connaître, j'y arriverai, avec certains faits un peu graveleux, comme par exemple les photos nues de Star, et il a réagi à certaines injonctions de justice ou certaines demandes extérieures en supprimant certains posts, en pas censurant, mais presque les personnes qui postent sur 4chan. Et évidemment, vu que le but de la communauté à la base,
c'est quand même l'encontre même de la du concept.
Mais c'est ça, voilà, c'est quand même le bashing. Les gens, évidemment, les membres l'ont mal pris, ont commencé à le prendre en grippe, et donc voilà, excusez-moi le terme, il s'en est ramassé plein la gueule, voilà, je vais le dire comme ça, je crois que ça correspond bien au propos. Et il a fini donc, voilà, par lâcher prise et par quitter le navire.
Donc, alors, voilà. Moi, il y a une petite chose qui m'est apparue assez intéressante d'ailleurs dans l'article que tu as partagé.
Au passage, tu fais bien de le dire, je vais quand même publier en commentaire un article de Slate.fr qui résume mais super bien le truc, moi qui connaissais pas 4chan après avoir lu ça.
Ouais, je vous le conseille. Je vais juste prendre une petite partie qui évoque en fait la création du site en tant que tel. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement, comme c'est rédigé au début de l'article, on a le sentiment que c'est un petit génie d'informatique qui, du haut de ses 11 ans, non, de ses 15 ans,
alors que pas du tout.
A créé un site. En réalité, absolument pas. Il y avait le site 2chan au Japon qui était en code source accès libre, qui grosso modo la même chose, et en fait il n'a fait que reprendre le code. Il a utilisé des outils en ligne de traduction japonais-anglais et de là il a créé 4chan. C'est quand même très intéressant, je vous conseille cet article, on le mettra dans les notes de l'émission, mais il y a plein de choses assez intéressantes. C'est vraiment, vraiment un régal, très bon article.
Ouais, franchement, ça nous résume plein de choses, ça nous explique voilà pourquoi il n'a jamais réussi à trouver vraiment à connaître ça de boulot, justement parce que à la base il n'a pas effectivement nécessairement, c'est pas un petit génie comme on appelle ça. Il explique comment ça lui a coûté de l'argent, qu'il s'est endetté pour ça, comment la communauté de 4chan peut prendre en grippe énormément. Vraiment, ils ont créé des phénomènes internet, c'est extraordinaire. Rien que Rick Astley, par exemple, pour nommer que lui, les gens connaissent qui a déjà envoyé un lien avec un faux lien masqué avec un Rickroll dedans sur un forum ou autre. Ben, ça vient de 4chan, par exemple. Le pédobir, ça vient de 4chan. Tout ce qu'on appelle tous ces mèmes, c'est le nom que ça porte, je pense, ça vient de là. Donc c'est quand même... voilà, 4chan était quand même assez énorme. Pour autant, il n'a jamais réussi non plus à rentabiliser tout ça, à en vivre. Il s'est plutôt endetté plus qu'autre chose. Donc, voilà. Mais non, je ne pense pas que pour autant ça s'arrêtera, parce que bon, le bashing, c'est quelque chose de tellement facile. Bref. Jeux vidéo maintenant, on va essayer de faire pas rapidos parce que je pense qu'on va en parler, mais quand même on va parler de quelques news qui tournent autour du jeu vidéo, à commencer par une news qui moi m'a un peu marqué, si on peut dire, parce que je m'attendais, c'est le déménagement de jeuxvideo.com sur Paris. Donc il faut savoir que jeuxvideo.com à la base, ça vient, alors Tu vas m'arrêter si je me trompe, parce que les régions françaises, tout ce qui est département, tout ça, d'autant plus que ça a visiblement changé, c'est pas mon truc, étant belge. Mais ça venait d'Auvergne, c'est ça ? J'ai bon ?
C'est ça.
Ah.
Exactement.
Alléluia.
Exactement.
Et donc, c'était, ça avait été créé là, ça a toujours existé par là, même avec le succès, ils n'ont jamais, voilà, ils n'ont jamais bougé. Et récemment, ça a été racheté par le groupe Webedia. Ceux qui s'intéressent un peu au web ont dû suivre. Donc Webedia, c'est un énorme groupe, c'est vraiment devenu tentaculaire. Ils ont racheté énormément de sites, pour ne citer qu'eux, ils ont par exemple OZAP, enfin qui est devenu, ça a changé de nom, je pense, je ne sais plus. Ils ont Allociné, si je ne me trompe pas, ils ont énormément de gros sites, et ils ont racheté récemment jeuxvideo.com pour un montant record que je ne connais plus. Ah, honte sur moi, je ne l'ai pas sous les yeux. Je vais vous le retrouver d'ici la fin.
Du coup, je peux compléter ton information en attendant que tu retrouves. OZAP, c'est Pure Media aujourd'hui, je crois.
C'est ça, merci.
Et du coup, oui, ça, c'est le groupe Pure Media maintenant qui possède. Et alors, au-dessus de Pure Media, c'est Webedia.
Mais c'est ça, Webedia, c'est ce que je dis, c'est le groupe qui a racheté. Ils ont racheté donc OZAP qui est devenu Pure Media. Et ils ont fait une déclinaison Pure People. Ils ont racheté Allociné. Ils ont racheté 750 grammes, qui est le deuxième site de cuisine.
Exactement.
Ils avaient essayé de racheter Marmiton, mais ils n'y étaient pas arrivés.
Du coup, ils se sont rabattus sur le deuxième.
Et alors, jeux vidéo, voilà, je l'ai ici les chiffres maintenant, tant que tu corriges, j'ai retrouvé. C'est 90 millions d'euros, donc 90 pour nos amis français.
c'est ça.
90 millions d'euros. Ils ont racheté jeuxvideo.com, c'est quand même un montant assez astronomique, hein, on se dit, pour un site, un petit site français, mais bon, jeuxvideo.com, c'est quand même le site numéro 1 en matière de jeux vidéo. Et donc, suite au rachat, d'ailleurs, ils ont opéré quelques changements. Les gens qui fréquentent ont dû se rendre compte qu'il y avait une nouvelle version qui était sortie, que des anciens de Gamekult avaient été rapatriés pour créer une plateforme vidéo beaucoup plus développée, avec des web TV en direct. Donc, vraiment, des gros changements dans l'air du temps, on va dire ça comme ça. Donc, ils ont créé Gaming Life, qui est une chaîne, une web TV en direct, qui diffuse d'ailleurs, je ne sais pas si tu, petite anecdote, si tu l'as remarqué, pour nos amis fans de podcast, Geek Inc. Ils sont passés sur Gaming Live. Mmh,
exactement.
Et voilà, donc bref, tout ça pour dire donc, que suite à ça, on s'attendait bien évidemment à des restructurations, des modifications, etc. Et voilà, ça a été décidé. Jeuxvideo.com déménage à Paris pour se rapprocher un peu plus du siège de nos amis de Webedia. Et
Partiellement à Paris, non ?
Oui, Toulouse, excuse-moi, oui, t'as raison. Effectivement, il y a une partie qui déménage quand même à Toulouse, il faut le reconnaître, mais bon, c'est quand même un acteur historique, parce que ça m'a marqué d'ailleurs, petite anecdote au passage, qui m'a marqué dans cette news aussi, c'est quand j'ai vu passer un tweet expliquant que France 3 Région faisait une news sur le sujet. Donc c'est quand même dire si jeuxvideo.com était important pour... c'est Aurillac, ouais. Voilà, j'ai le nom, ils étaient à Aurillac.
Oui, Auvergne, exactement.
Et donc, c'est quand même dire s'ils sont... Ils sont tellement importants qu'une TV nationale, bon, pour le coup régionale, parce qu'ils ont des dépendants régionaux, a quand même fait une news à ce sujet expliquant le déménagement de l'éditeur de jeuxvideo.com. Ouais. Donc voilà, mais il y a quand même 47 salariés qui étaient basés là-bas.
D'autant plus, voilà, exactement. Mais alors, 47 salariés, si effectivement on oppose ça au prix de rachat de la société... effectivement, je pense qu'on peut considérer quand même que c'est un site qui est bien valorisé, enfin qui est relativement sain, parce que pour 37 salariés arriver à être vendu ce prix-là, c'est quand même un beau.
Oui, c'est quand même un beau. Oui, effectivement, maintenant ça fait quand même aussi ça donne une impression parfois de bulle internet. Enfin bon, ça c'est une autre histoire, un autre débat qu'on lancera peut-être dans une autre émission, mais.
Exactement.
Ça fait quand même parfois un petit peu peur aussi de se dire une petite structure vendue à un tel prix, c'est quand même énorme. Pour le rentabiliser, ils ont quand même du boulot, mais non, ils ont l'air bien partis, visiblement. Bon, voilà, donc c'était newsjeuxvideo.com. Je ne sais pas si tu as au passage un commentaire là-dessus avant que je n'embraye.
Sur jeuxvideo.com, non. Enfin, pour rien cacher, je pense qu'en même temps les auditeurs sont. Moi, je suis pas à la base particulièrement jeu, ce qui va détonner d'ailleurs avec la news suivante, si je peux embrayer.
Vas-y, je t'en prie.
Mais en fait, ça m'a intéressé pour d'autres raisons. Donc, tout d'abord, je vais quand même introduire le sujet. Dailymotion, qui est un acteur quand même relativement connu du streaming vidéo, vient de lancer, en tout cas en bêta, mais qui est déjà accessible à tous, sa plateforme games.dailymotion.com, donc Dailymotion Game. Plateforme, en fait, grosso modo, concurrente de Twitch. Et alors, je suppose que tout le monde sait ce que fait Twitch, c'est-à-dire streaming de jeux vidéo en direct. Pourtant, là où c'est intéressant, et c'est pour ça moi, que je voulais mettre en avant en fait, ce système-là, c'est que Dailymotion n'a pas souhaité en fait, monter un nouveau site, bénéficier juste de ces technos de streaming classiques. Ils ont souhaité agréger le contenu déjà existant sur leur plateforme, alimenter ce nouveau site. La bêta qui est actuellement accessible utilise du contenu qui historiquement est hébergé et déjà présent sur Dailymotion. Donc la seule chose qu'ils ont fait, c'est créer un site annexe avec un autre point de vue et donc une autre manière de naviguer qui est beaucoup plus orientée jeu vidéo, c'est-à-dire la classification est faite par jeu vidéo et donc type de streaming. Ça qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'ils n'ont utilisé une partie de leur contenu, ils ont créé un site exclusivement pour cette partie du contenu-là et organisé la structure pour ce contenu. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette information, et je ne sais pas si on pourra en discuter un peu, mais c'est les possibilités d'ouverture sur d'autres thématiques. Et me dire, effectivement, aujourd'hui, Dailymotion, YouTube et ces acteurs-là hébergent un certain nombre de contenus. Après, donc, on n'a pas forcément toujours la même manière de consommer ce contenu-là. Donc je me dis, finalement, il y a un certain nombre de podcasts, enfin ce qu'on appelle podcast, qui n'en est pas vraiment, puisque historiquement c'est iTunes, il y a un certain nombre de tutoriels, il y a un certain nombre de choses. Ah, et si Dailymotion effectivement amorce cette déclinaison du concept pour d'autres thématiques, ils pourront créer des sites par thématique avec une classification d'informations pertinente par thème. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est comme ça que j'ai vu l'information. J'ai trouvé ça intéressant.
T'as très clair. D'ailleurs, on le remarque, on arrive sur la page games4dailymotion.com où on voit du contenu, effectivement, de chaînes déjà existantes. On voit des Millennium TV, des Hyper qui fait du Minecraft. Voir du contenu autre, oui, effectivement, ils auront peut-être des manières de présenter tel type de contenu, et à mon sens, ils l'ont déjà fait avec le Dailymotion Studio qu'ils avaient lancé sur Paris, où ils avaient invité je vais dire le mot podcasteur parce que c'est comme ça qu'ils l'utilisent, mais selon moi, c'est pas des podcasteurs, hein, tout ce qui est Norman, Cyprien, etc., c'est... Voilà. Moi, j'ai plus l'impression ici... Alors c'est peut-être moi qui me trompe, que Dailymotion essaie de surfer, d'attirer du public en surfant sur des vagues de choses qui marchent ailleurs, comme le jeu vidéo, justement. Le jeu vidéo, c'est beaucoup de live, beaucoup de TV en live, de gens qu'on suit en live, et donc c'est ce qu'ils essaient de lancer ici. Mais à mon sens, il n'y a rien à faire de Dailymotion. Il y a pour moi un problème de positionnement quelque part. Je ne vois pas je ne vois pas la finalité, je ne vois pas le succès de ça. Les vidéos déjà existantes, les vidéos pas en live, on a YouTube qui est là. Il n'y a rien à faire, qui va taper Dailymotion pour chercher une vidéo quand tu as YouTube à côté. Pour le live de jeux vidéo, il y a, tu viens justement de le dire, j'ai un trou, ça y est. Twitch, merci. Qui d'ailleurs a été repris par Amazon, donc il y a quand même une force de frappe énorme pour le coup, que de nombreuses personnes utilisent déjà. Donc j'ai envie de me dire, ok, ils abordent une nouvelle manière de présenter la chose, mais qui va aller utiliser ça, pour qui? C'est un peu la question que je me pose. Qui va aller
Je suis d'accord, mais en fait c'est là où j'ai trouvé l'approche intéressante, c'est que justement ils ne se sont pas dit on est un acteur et il faut qu'on aille sur le marché. C'est plutôt de toute manière, ou en tout cas moi c'est ma compréhension, de toute manière aujourd'hui il y a du contenu, et il y en a d'ailleurs sur notre plateforme, ce contenu-là intéresse une faible partie de notre population, mais par contre la partie de la population qui s'intéresse à ça, mais qui actuellement, parce que bizarrement moi ça m'a étonné de voir qu'il y avait autant de streaming en fait de jeux vidéo sur Dailymotion, mais présenté comme ça l'est sur Dailymotion Games, et donc condensé et agrégé sur une seule plateforme. Je me dis, les gens qui historiquement suivaient, alors encore une fois, c'est biaisé parce que moi, je joue pas aux jeux vidéo, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais finalement, il y avait du contenu, pourquoi pas l'agréger. J'aurais trouvé la démarche beaucoup moins pertinente si Dailymotion nous annonçait un nouveau site avec un nouveau système complètement. Voilà, là c'est juste, on utilise notre contenu, on le restructure. Après, je pense pas d'ailleurs que du coup l'investissement soit énorme côté Dailymotion pour mettre en place une plateforme comme ça. Il y a eu relativement peu de communication autour. Je pense que c'est plutôt un test, mais un test assez intéressant. De comment va-t-on restructurer notre contenu en fonction des
thématiques. C'est une bêta, oui, clairement, ça l'indique de toute façon. Maintenant, il y a quand même une chose. Moi, ils ont, à mon sens, des cartes à jouer. Déjà dans la présentation, effectivement, ça c'est vrai que la façon d'agréger leur contenu, la façon de proposer par jeu, avec le nombre de viewers, quand tu cliques sur le jeu, les types de streaming, etc., du contenu déjà existant, oui, effectivement, ils ont, pourquoi pas le faire, après tout, ils ont les moyens, ils ont la base qu'il faut pour ça. Et à côté de ça, il y a, bon, ça, je vais pas m'étaler sur le sujet, parce que ça pourrait faire l'objet d'un débat plus complet, mais on a vu récemment des histoires, ce qu'on appelle le strike sur YouTube et sur Twitch, donc de gens qui se faisaient censurer ou couper les subsides parce qu'ils utilisaient des soi-disant morceaux signalés comme copyrightés, de la musique ou des extraits de jeux, peu importe, ils devaient s'affiner avec toi. Enfin, voilà. Dailymotion, peut-être, s'ils adoptent quelque chose d'un peu plus libre, où ils permettent une plus juste rémunération, mais d'être plus indépendant et de beaucoup moins censuré, de beaucoup moins. Peut-être qu'ils ont une carte à jouer, qui sait.
Ouais.
Peut-être. Maintenant, je ne sais pas s'ils peuvent le faire non plus. Ils ne sont pas dans le giron un peu du gouvernement français. Ils ne sont pas un peu. Ça partait de leur rang, je ne sais plus.
Ah oui, non, mais, enfin, c'est. Alors déjà, ils sont totalement indépendants d'un point de vue politique, stratégique. Ils sont effectivement détenus majoritairement par Orange, mais qui, encore une fois, n'est plus un acteur.
Ouais, mais qui a peut-être pas envie quand même de se brouiller trop avec eux, non ? Enfin, je sais pas. Hein,
bon, après, on va pas y revenir, mais je pense que l'épisode Yahoo les a pas mal éloignés quand même. Je pense qu'en tout cas, en interne, ils sont relativement éloignés des prises de décisions stratégiques d'un quelconque gouvernement. Donc, ils sont relativement autonomes, à mon avis, là-dessus. Et tu te souviens de l'histoire, mais bon, ça avait fait quand même un certain... pas mal d'écho. Donc non, là-dessus, je pense vraiment qu'il y a plus de ils sont plus sous le joug, enfin je sais même pas s'ils l'ont d'ailleurs vraiment été, mais sous le joug d'une certaine autorité gouvernementale ou quoi que ce soit.
Bah moi j'étais pour qu'ils soient repris par Yahoo, c'était une bonne
non mais complètement, là pour le coup on est complètement
d'accord. Je suis converti.
Oui, exactement. Non, mais bon, voilà, on va pas s'étendre sur le sujet. Dernière toute petite chose, je pense qu'il y a aussi pas mal de cartes à jouer, en tout cas sur la partie jeux vidéo, parce que je me suis renseigné. Encore une fois, je suis pas expert. A priori, la Xbox, en tout cas, en natif, intègre l'appli Dailymotion. Ou à voir, il y aurait peut-être des cartes à jouer, parce que je pense pas, si je me trompe pas, que. Aujourd'hui, les plateformes type Twitch soient directement intégrées en live stream depuis les consoles.
Celle-là, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là.
D'accord, bon, bah, alors moi non plus.
Je crois qu'il y a quand même un navigateur intégré de toute façon, donc il y a moyen, mais non, une application. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour le moment.
Bon,
mais non, c'est vrai qu'ils auraient quand même tout intérêt, que tu me fais penser à ça d'ailleurs, ils auraient quand même un intérêt à aller voir les éditeurs de consoles de jeux et à leur proposer, vu qu'il y a par exemple sur la Xbox One et surtout sur la PS4 avec un bouton dédié, une possibilité de partager en direct ces parties ou de partager des replays.
Si en plus ça peut se faire via leur plateforme.
Mais c'est ça, voilà. Pourquoi ne pas démarcher un peu les concepteurs et leur demander d'avoir un partenariat direct pour partager sur Dailymotion ? Ça pourrait être intéressant pour eux, en effet. Bon, dernière news jeux vidéo, et comme ça on a terminé avec les news du web en général. J'avais envie de vous parler d'une d'une petite, d'un petit, je vais pas dire pied de nez, parce que voilà, mais c'est bon, c'est quand même critiqué très très fort par les youtubeurs, c'est le Nintendo Creators Program. Donc c'est un programme présenté par Nintendo il y a quelques jours d'ici, il y a, je sais pas la date, enfin voilà. Donc c'est un programme d'affiliation en fait, qui permet aux amateurs de gagner de l'argent en streamant des parties Nintendo sur YouTube, tout en ayant l'aval de notre cher ami Big N, donc Nintendo. Donc, alors il y a plusieurs choses à expliquer là-dedans, je vais essayer de le faire quand même rapidement. Donc il faut savoir qu'une personne qui joue aux jeux vidéo en live sur YouTube ou qui poste une jeu vidéo de ce qu'on appelle let's play, donc de jeu sur YouTube, peut, si elle le décide, mettre de la pub et donc gagner de l'argent en streamant sa partie. Donc quand les gens, quand vous cliquez sur YouTube pour voir la vidéo de la personne qui joue et qui commente son jeu, vous avez une petite vidéo de pub avant, ça rapporte un peu d'argent à YouTube, un peu d'argent à la personne. Le souci qui se pose en général, c'est que les éditeurs de jeux sont pas très friands de ça, parce que le jeu, c'est quand même leur propriété, ils ont un copyright dessus. Et donc voilà, que quelqu'un gagne de l'argent grâce à leur contenu, selon eux, parce qu'après voilà, c'est, je vais pas envie de faire une généralité, il y a plein d'autres choses, il y a l'aspect publicitaire, il y a l'aspect création, il y a l'aspect promotion que ça donne aux jeux vidéo, mais ils sont pas toujours très pour que ça apporte de l'argent à quelqu'un d'autre. Et donc Nintendo, dans son habituel enfermement, on peut dire ça comme ça rapidement, hein, ils sont pas du genre très ouverts, a décidé de présenter un programme où ils valideraient en quelque sorte les youtubeurs en fait, qui jouent à des jeux Nintendo, leur permettraient de publier du contenu, de gagner de l'argent avec, tout en partageant les recettes avec Nintendo directement. Donc le youtubeur toucherait 60 à 70, enfin 70, hein, non les français, oui 70,
excellent.
Je le fais bien, ouais. Donc 60 à 70% des revenus publicitaires générés par la vidéo, et le reste, donc 30 à 40% irait à Nintendo. Alors il y a quand même des conditions très strictes, hein. Il faut traiter seulement de certains jeux qui sont repris dans une liste blanche que Nintendo autorise. Donc il y a Mario Kart 8, Legend of Zelda, Ocarina of Time 3D, Metroid Prime 3, certains jeux Wii U et 3DS, et quelques jeux GameCube, Game Boy Advance et Nintendo 64, donc anciennes machines. La vidéo doit proposer un contenu original, donc on peut pas utiliser des vidéos déjà existantes, d'autres vidéastes, ou de citer d'autres personnes, ou des contenus autres que ceux de Nintendo et de la personne. Et un message d'avertissement doit arriver au début de la vidéo expliquant que le youtubeur est affilié au programme Nintendo Creators et que donc la pub est rétribuée en majeure, en partie, là c'est 60-40 ou 70-30 entre Nintendo et lui. Donc voilà, ils ont proposé ce programme, ils ont décidé que ce serait une bonne idée. Alors en soi pour eux c'est une bonne idée, ça leur permet de récupérer une part du gâteau. Évidemment, les youtubeurs derrière sont pas très contents, parce que ça veut dire que sur ce genre de choses, ils vont déjà, Nintendo pourrait les censurer au besoin, pourrait leur couper les vivres et le programme en leur disant vous avez dit du mal de notre jeu, on arrête là. Donc ça gâche un petit peu le côté liberté d'expression, et de l'autre, ça les prive d'une source de revenus, enfin d'une partie du revenu qu'ils peuvent générer, quoi. Donc moi, je sais pas si toi, de ton côté, tu as une réaction.
Non, mais en fait, j'aurais tendance à le ramener un peu à la partie qu'on a dit finalement sur The Pirate Bay, un peu étrangement. C'est tenter d'encadrer ou du moins de légiférer sur quelque chose qui a déjà éclos. Un peu, en fait, c'est réagir trop tard à quelque chose qu'ils n'ont pas contrôlé à un moment, et donc réagir mal parce que trop tard. Et donc imposer des conditions qui, moi, me paraissent mais complètement déraisonnables, surtout au regard de comment aujourd'hui les streamers fonctionnent. Pour moi, en l'état, ça ne pouvait que créer des levées de boucliers et être quand même assez dérangeant pour les personnes qui ont commencé à faire ça depuis un bout de temps.
Ben non, je pense clairement, c'est réagir trop tard, comme tu dis, et essayer de récupérer une part du gâteau en se disant voilà, ils ont généré énormément d'argent avec nos jeux, maintenant on veut en récupérer une partie, on a de l'argent à faire quelque part, on a de l'argent à faire par là, on va essayer de le faire, on va essayer d'imposer. En même temps, le problème qui se posera aussi, c'est qu'ils sont quand même dans leur droit. Vis-à-vis du copyright, ils ont le droit de dire, on veut pas qu'on diffuse le contenu de nos jeux, c'est voilà, c'est nos jeux, c'est copyrighté. Et donc, les youtubeurs qui ne s'y plieraient pas, malheureusement, j'ai envie de dire, tant pis pour eux.
Ah oui, non, mais c'est sûr qu'ils ils ont la légitimité. Légitimité de le faire, comme les ayants droit de manière générale sur la musique et sur les films ont totalement la légitimité de le faire. Le problème, c'est que la légitimité de le faire et avoir un véritable impact, il y a un monde, et c'est ce dont on se rend compte en fait avec The Pirate Bay. C'est à mon avis ce qui va se produire, c'est-à-dire que de toute manière ils ne pourront pas empêcher le stream de leurs jeux vidéo sur une plateforme ou une autre. Donc après, le tout c'est de trouver des alternatives intelligentes. Et côté musique, on pourra évoquer le streaming légal, enfin des Spotify, des Deezer et autres solutions qui ont permis, qui à mon avis ont commencé à proposer des solutions, des alternatives intéressantes. Payante mais raisonnable et qui pouvait attirer un certain nombre de gens et qui aujourd'hui plein de personnes qui historiquement téléchargeaient de la musique finalement se sont abattues sur ces solutions. Pour moi, ça c'est une démarche intelligente quand on essaye de rattraper un phénomène qu'on a un peu laissé dériver. Et là essayer de castrer le phénomène, à mon avis ça, enfin, ils ont très peu finalement de marge de manœuvre.
Nous allons maintenant passer aux news des crowdfunding. Donc nous avons, devant l'ampleur du phénomène crowdfunding et des nombreux projets qui naissent là-dessus, on a décidé de partager l'émission en deux parties majeures, enfin trois exactement avec les projets mis en avant. De parler dans un premier temps de projets du web de manière générale et maintenant de crowdfunding uniquement. Et donc je vais commencer avec un projet qui m'a marqué, pas tellement par l'aspect création du truc, parce que bon, il est marrant, ça il faut pas se leurrer, hein, il fait écho à toutes ces histoires de chats qu'on trouve sur internet, il va d'ailleurs faire plaisir au Captain Web, pour ceux qui connaissent, hein, qui aiment bien tuer les chats à coups de pelle. Je sais pas si tu connais, c'est un projet qui s'appelle Exploding Kittens, qui est un jeu de cartes en fait, de cartes à jouer. Où le but c'est de, en gros, de buter des chats. on va le dire comme ça en fait. Et donc le principe en fait c'est des cartes qu'on joue qui montrent différentes morts de chats. Et le but est de tuer son adversaire. Il y a quelques cartes bonus qui permettent de se défendre contre les différentes morts, qui permettent de contre-attaquer l'adversaire, d'esquiver des mouvements. Enfin voilà. Et c'est un jeu complètement délirant en fait. Ça nous parle de licornes magiques sur des arcs-en-ciel, de slip kangourou défensif, enfin c'est ça part dans tous les sens. Et ce qui m'a marqué en fait sur ce projet, c'est pas tellement le projet en lui-même, parce que pour t'avouer, j'ai même pas encore backé le projet. Il reste encore 16 jours à l'heure où je vous parle, hein, mais c'est surtout la façon dont le projet a très vite décollé en fait. Puisqu'il a battu tous les records de Kickstarter. Alors, pour vous situer dans les chiffres, à l'heure où je vous parle, donc nous sommes le 3 février 2015, il est très exactement 23h23, jolie heure, et le projet, à 16 jours de son terme, est déjà à 5 millions, presque 200 000, hein, 5 197 000 dollars. Donc c'est quand même assez énorme. À la base, il avait demandé... Que je dise pas de bêtises. Tu es toujours là, oui, parce que je ne t'entends plus.
Oui, toujours. Je t'écoute avec attention.
J'écoute religieusement, d'accord. je ne retombe plus sur les sommes exactes, mais. Notre carte est disposée. Bah, j'ai perdu mon fil, ça fait pas très professionnel, mais c'est pas grave, désolé. Voilà.
Je crois que c'était 10 000. C'était 10 000 dollars
c'est ça.
L'objectif.
C'est ça, je viens de le retrouver. C'était 10 000 dollars et il a atteint en 20 minutes, quand même.
Exactement.
C'est quand même assez énorme. Donc voilà, un vrai gros succès. Je ne sais pas encore si je backerai, mais en tout cas, on peut dire que c'est ce qu'on appelle une réussite. Hein. Ça fait péter les compteurs, pour le coup.
C'est, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Enfin, 20 minutes pour atteindre le palier des 10 000, c'est quand même.
Maintenant, c'est pas des inconnus qui sont derrière. Hein, il faut quand même le dire. Hein. C'est des gens de la qui font partie de la team Xbox, qui font partie de Marvel pour certains, notamment Alan Lee pour ceux qui connaissent. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Ils ont décidé de se lancer un délire, un petit jeu de cartes un peu style roulette russe avec des chatons. Pourquoi pas, c'est ce qu'il y a pas.
Le délire à 5 millions. Ah,
ben c'est ce qui fait vendre sur le web, hein, les chatons. C'est connu, non?
Exactement. Ils ont réuni tout ce qui pouvait avoir un fort impact sur le web et effectivement, ça n'a pas dérogé à la règle.
En tout cas, voilà, c'est quand même assez impressionnant, il faut le reconnaître. Pour un projet qui part à 10 000 dollars d'objectif, à 16 jours de la fin, être déjà à plus de 5 millions, je crois qu'il y en a peu qui peuvent se targuer d'un tel montant. C'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, un beau record. Alors, on va news suivante, alors, c'est à ton tour.
Ouais, c'est à moi. Alors, ça va être drôle parce que c'est dans cet épisode-là, on va finalement parler peu de projets, paradoxalement. Moi, c'était justement pour continuer un peu dans la tendance des projets, en tout cas pas web, qui ont complètement explosé. Et je me suis rendu compte, et on avait connu deux événements quand même assez importants, enfin deux histoires que je vais essayer de vous raconter et de vous présenter, qui ont permis de lever des fonds assez impressionnants par rapport à ce qui était demandé. C'est des histoires complètement ou assez déconnectées de projets web, mais qui sont assez intéressantes pour voir la philosophie de ce qui se passe. Les deux histoires se basent sur le site GoFundMe. Alors la première, ça se passe à Londres, un homme de 67 ans, handicapé mental, je crois, qui a été attaqué en fait devant son domicile et qui a été laissé avec une clavicule cassée en bas de chez lui, donc histoire tout à fait sympathique. La conséquence, c'est que l'homme en fait a eu peur de retourner à son domicile après les événements et après avoir été hospitalisé. Constaté en fait cette histoire-là, une esthéticienne, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Cathy Cutler, a été touchée en fait par le sort de Alan Barnes, qui est la personne donc handicapée dont je vous parlais. Elle a mis en place en fait une page sur GoFundMe pour amasser un certain nombre de fonds pour aider à couvrir les coûts du déménagement de Alan, qui ne souhaitait plus retourner chez lui. Donc elle a demandé 500 livres, ce qui équivaut à 750 dollars à peu près. Et en demandant 500 livres, elle a récupéré 285 000 livres, soit 430 000 dollars. Donc histoire assez impressionnante. Et c'est là où on se rend compte que en fait on a pour des causes comme ça des retours qui sont complètement disproportionnés et on voit qu'en fait il n'y a pas de limite à la charité sur Internet et au partage via Internet. Donc c'est des belles histoires. Je vais juste enchaîner rapidement avec la deuxième.
C'est juste une précision, c'est 328 000 en fait, celle-ci. 328 221 livres.
Ça a encore évolué entre le moment où j'avais fait mes notes pour l'information.
Donc c'est quand même assez balèze.
Non, c'est assez costaud. Et donc juste dans le même thème, beaucoup moins noble certes, mais un livreur de pizza. Alors je sais pas où l'histoire se passe, mais quoi qu'il en soit, il a filmé une scène dans laquelle un client lui réclamait un pourboire qu'il n'aurait pas dû avoir, etc. Un peu, l'histoire est un peu décousue, j'ai pas tout à fait compris. Quoi qu'il en soit, le client s'est énervé, a demandé que le livreur de pizza se fasse virer, et puis il y a eu un certain nombre d'échanges un peu compliqués avec le gérant de la pizzeria, etc. YouTube. Et encore une fois, une femme qui a vu cette vidéo sur YouTube qui avait pour intitulé, alors c'était en anglais mais l'équivalent voudrait pour que alors je ne sais plus son nom, mais on l'appelait Paul pour que Paul ait son pourboire, et elle souhaitait en fait récolter donc un livre pour qu'il puisse avoir son pourboire. Et évidemment, bah, elle a reçu 31 000 livres. Entre le moment où j'ai pris mes notes, et c'était beaucoup plus élevé que ce qui était attendu. Et donc, deux histoires qui montrent que la générosité sur Internet n'a pas de...
C'est pas
ce que ça t'évoque.
Ben c'est juste précision, il s'appelle Jared, cher monsieur.
Exactement, Jared.
Mais maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Comment je vais dire ça sans... D'un côté, c'est vrai que c'est des belles histoires, ça paraît beau, etc. Ça, c'est impressionnant, toujours les montants qui sont atteints de toute façon. Maintenant, à partir du moment où tu parviens à faire comme ça le buzz aussi, c'est vrai que ça peut monter très vite. C'est au moment où tu te retrouves... C'est difficile à cibler, hein, mais la période charnière entre le moment où c'est juste un projet de crowdfunding ou alors un projet de don et le moment où ça se transforme en espèce de buzz parce qu'on se dit que le montant est quand même hallucinant et donc ça attire l'œil, ça fait pas dans les médias et donc là ça commence à attirer encore plus de gens qui vont venir le suivre et pour le buzz vont rajouter. Il y a ce moment charnière qui fait que ça, certains projets vont aller bien au-delà et vont accueillir une énorme notoriété.
Effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est si finalement les gens ne réagissent qu'à l'effet de buzz, ne sont motivés que par l'effet de buzz, ou si réellement il y a une forme d'entraide et de collaboration un peu exacerbée sur le web qui se produit. Forcément, la communication autour de ces événements, dès qu'ils commencent à émerger et à devenir un tantinet exceptionnel au niveau des montants, elle est beaucoup plus importante. N'empêche que les gens mettent la main au portefeuille, donc
mais moi, finalement, c'est un peu les deux, quoi.
Oui. Mais si in fine, les gens sont, le public est interloqué et arrive à passer à l'étape, alors je parle plus de la première histoire, la deuxième histoire, finalement, c'est pas forcément pour une cause très, très noble, mais je me dis que d'une manière générale, c'est quand même assez intéressant de voir que ce type d'événement peut permettre d'amorcer le don, quoi, chez une personne.
Non, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Maintenant, je pense clairement qu'il y a un peu des deux qui jouent. Il y a le phénomène de don, de se sentir appliqué dans une histoire comme la première que tu décris, où voilà, d'office, les gens vont commencer à se... C'est ce genre de cas où tu as presque... Je vais pas dire honte de pas donner, mais voilà. Et ça se décuple. Et après, derrière ça, une fois que les histoires ont quand même pris à la base et où les gens ont eu cette envie de donner, ça s'accentue encore plus quand ça devient médiatique, quoi. De toute façon, c'est vraiment là que je voulais en venir. Maintenant, voilà, ça reste des montants de toute façon impressionnants, des histoires un peu tristes à la base. Et bah, tant mieux d'un côté, tant mieux que ce genre de système existe et permette ce genre de choses, même si au final, ça ne sert qu'à faire un peu du buzz. Bah, pour la personne en tant que telle ou pour l'histoire, ça reste des belles histoires. Ça, il faut quand même le noter.
Exactement.
Et c'est mieux que de financer une salade de pommes de terre sur Kickstarter. Les intéressés reconnaîtront. Projet suivant, pour ma part. Un projet qui a fait le buzz, parce que j'en entends parler absolument partout, qui a fait le buzz sur Kickstarter, c'est Print. Je sais pas si tu l'avais vu avant que je mette les liens dans le doc, si t'avais entendu
du
parler.
Tout.
Du tout. Ah tiens, moi j'entends parler sur énormément de sites, étonnamment. Donc c'est un projet tout simple, d'ailleurs dans le processus qui existait déjà par le passé, mais bon, qu'ils ont soi-disant, parce qu'on n'a pas encore vu le matériel, mais soi-disant amélioré. Donc Print, c'est quoi? C'est en fait une sorte de mini-imprimante dans laquelle tu viens glisser ton iPhone. Pour la peine, j'ai pas d'iPhone, donc ça m'intéresse moyennement parce que c'est réservé aux iPhone 5, 5S, 5C, 6 et aux Galaxy S4 et S5 pour le moment. Donc
d'accord.
Le principe, c'est que tu glisses ton téléphone dans cette sorte de petite imprimante et que ça te fait un système façon Polaroid. Donc n'importe quelle photo que tu as pris va s'imprimer directement sur une photo type Polaroid via cette petite imprimante. Avec une recharge de 10 papiers, donc tu peux imprimer jusqu'à 10 photos. Et donc le projet a fait un peu le buzz, puisque je te dis, moi, Après, bon, voilà, ça dépend sûrement des sites qu'on lit et qu'on fréquente, mais je le vois un petit peu partout. Et ici, à 27 jours de son terme, pour un objectif de 50 000 $, le site est déjà quasiment à 600 000. Donc,
ouais,
voilà. Il a au-delà plus de 10 fois le montant escompté au départ. Après, comme j'ai dit déjà, j'ai pas d'appareil compatible, de 1. De 2, c'est vrai que ça m'intéresse moyennement. Maintenant, le côté très à la mode des selfies et le retour un peu du vintage et de l'idée du Polaroid, je pense que c'est, voilà, c'est logique que ça séduise. Quoi. C'est logique que ce soit le genre de projet qui plaise. Je sais pas si...
Non, le projet en soi est plaisant. À la limite, je regretterais presque, en fait, j'aime beaucoup le côté authentique de la démarche. Quand j'ai regardé la page Kickstarter, qui m'a finalement le plus ennuyé, c'est tout ce qu'il y a après le principe de Polaroid. J'ai pas tout à fait compris leur objectif de réalité augmentée. Enfin, t'en as pas parlé, je pense que c'est quand même quelque chose d'un peu annexe.
Mais oui, parce que j'ai pas non plus, ça m'a semblé confus et ça m'a surtout semblé pas être le cœur, vraiment le centre d'intérêt du truc.
Ouais, exactement.
Donc c'est vrai que voilà, j'ai pas. Voilà.
Bon, donc juste pour préciser pour les gens qui nous écoutent, en tout cas moi avec ma compréhension, l'application qui est livrée avec, qui permet en tout cas de prendre les photos, si j'ai bien compris, donc ça c'est une chose, c'est tout à fait normal, et de les imprimer, elle permet aussi, si j'ai bien compris, en fait, de scanner n'importe quel Polaroid qui aurait été pris et imprimé, pour afficher en réalité augmentée sur la photo qu'on est en train de filmer, une espèce de petit vine, enfin un film assez court, qui anime la photo. C'est pas si j'étais clair, et c'est un peu comme ça que je l'ai perçu, c'est-à-dire que c'était pas très clair. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu dérouté sur le projet, c'est que les deux, trois premiers paragraphes expliquent bien le concept avec le Polaroid, etc. Et alors après, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a une partie augmented reality, tout plein de choses avec une application ça m'a un peu dérouté, mais bon, si ça n'est qu'une fonctionnalité en plus, globalement sinon c'est vrai que le principe est quand même
comme sympa. Oui, c'est une pour nos amis un peu plus chauvins, c'est une start-up française si j'ai bien lu, donc voilà, du français si
et je me suis pas renseigné. J'ai vu San Francisco CA sur le début du truc de Kickstarter, donc je me suis pas allé plus loin, mais effectivement.
Si, c'est une sources que j'ai aussi dans l'article, je mettrai le lien. C'est visiblement une start-up française.
Superbe.
Donc voilà. News suivante dans les projets de crowdfunding. Je vais te laisser la parole pour. Chat call.
Enchaîne. Projet de crowdfunding plus ou moins. Je tiens à préciser que personne qui crée l'application ne sera absolument pas contre les sous. À mon avis, en tout cas, ce projet qui est en train d'être lancé, vous pouvez aller sur signup.chatcallapp.com, les liens seront dans les notes de l'émission, pour renseigner votre adresse mail et participer à la bêta. Le principe, je vais être très bref, je pense qu'a priori, dans les épisodes qui viennent, on aura sûrement la possibilité d'inviter le créateur de l'application, s'étendre un peu plus dessus. Le principe, c'est juste d'envisager en fait la conversation message avec l'exclusivité équivalente d'une conversation téléphonique. Je m'explique. Lorsque vous faites une conversation téléphonique, et c'est relativement vrai la plupart du temps, exclusivement concentré et sur la seule activité de discuter avec votre interlocuteur. Vous ne pouvez a priori rien faire d'autre, vous avez le téléphone contre l'oreille et vous parlez avec cet interlocuteur. Donc il y a une forme d'exclusivité. En fait, crée des sessions de chat, c'est-à-dire que je veux rentrer en communication, sauf que je ne peux pas parler à ce moment-là. je veux rentrer en communication avec une personne, je l'appelle via chat call, donc ça l'appelle, son téléphone sonne ou vibre, elle répond, ça ouvre une fenêtre de chat, je vais pouvoir commencer à discuter par message, comme si j'étais au téléphone, mais pas écrit. Je ne peux absolument pas ni quitter l'application, ni passer sur une autre, je dois être pendant la conversation, proche au moment où ma conversation termine. Il est relativement simple. L'idée, ça serait, donc je ne vais pas pour le moment donner mon avis ou quoi que ce soit, je pense que de fortes chances qu'on ait le créateur qui pour en discuter. Après toi, peut-être que tu fais un retour à chaud, mais en même temps, tu ne l'as pas essayé. Je ne pense pas que tu l'aies essayé.
Voilà, j'ai pas pu l'essayer, puis c'est uniquement apparemment iOS pour le moment, si j'ai bien vu, et je suis utilisateur Android.
Fort possible. C'est vrai que je me suis pas posé la question étant utilisateur iOS. Oui, c'est ça.
Donc voilà, étant
c'est
utilisateur Android, malheureusement, je ne saurais que difficilement donner mon avis.
Bon, du coup, ça sera sujet à débat, mais je voulais l'évoquer. Si les auditeurs veulent l'essayer, c'est disponible en bêta. Donc, c'est effectivement exclusivement iOS. Je n'avais pas pris en compte cette... Mais donc, essayez-le, je sais qu'on appelle ça. Et donnez-nous vos retours et on discutera un peu plus longuement du sujet avec le créateur.
À mon avis, c'est là, puisque c'est une application, je pense.
Oui, une application, en effet.
Si je ne me trompe pas, mais non, voilà. La science infuse en matière de français. Bon, et alors pour terminer sur le projet crowdfunding, comme ça on a fini avec cette partie news, j'avais envie de parler d'une petite start-up belge, quand même, hein, pour marquer le coup. Il faut bien rester belgo-belge. Donc je suis... Ceux qui ont déjà écouté les anciens projets du web le savent, beaucoup dans les transports en commun, beaucoup en déplacement pour mon travail, beaucoup. Donc j'ai énormément d'appareils électroniques avec moi, et je fais une énorme consommation de batterie, de recharge permanente. J'ai d'ailleurs participé à un projet crowdfunding où j'avais reçu, comment ça s'appelait encore ? J'ai un trou, une batterie similaire mais juste en micro USB. Qui est très sympathique d'ailleurs, je vous invite, je mettrai le nom parce que je ne m'en souviens plus. Et donc ici, je suis tombé sur une start-up belge qui accroît encore le procédé des batteries portatives avec un appareil qui s'appelle Life Power. Et ce qui diffère des habituelles batteries dont on a l'habitude avec un simple câble micro USB, Lightning pour les possesseurs d'iOS, c'est qu'ici, on peut carrément y connecter une prise de type 220 volts. Prise d'ordinateur portable par exemple dessus, ainsi qu'un câble USB en même temps pour un téléphone, une tablette ou un autre appareil. Donc voilà, je trouvais que c'était les premiers à aller quand même aussi loin, à proposer quelque chose d'aussi complet. Maintenant, le prix de base évidemment est un peu plus élevé, hein. Moi, ce que j'avais acheté, décidément, je ne retombais pas sur le nom, était de l'ordre de 50 euros. Ici, on est quand même à 228 $ pour la base, quoi, pour juste l'appareil. Mais bon, il ne faut pas s'en faire pour eux. Ils ont quand même réussi leur coup, puisque pour un objectif de 29 000 $, ils en sont déjà à 60 000. Et ils ont encore 19 jours de financement. Donc voilà, c'est tout pérenne pour eux. Et il faut reconnaître aussi que l'appareil en lui-même, malgré la quantité de recharge que ça doit nécessiter, parce que c'est quand même balèze, est pas si costaud que ça. On pourrait s'attendre à quelque chose d'assez énorme, mais moi je trouve qu'ils ont bien pensé le produit et que c'est vraiment quelque chose de transportable pour le coup. Et pourquoi pas, je me verrais bien le transporter avec moi. Et dernière chose, petite précision quand même, l'appareil peut aussi se recharger, donc l'appareil en tant que tel, par énergie solaire. Bon, voilà, après l'énergie solaire, on nous en parle depuis tellement longtemps que je commence à avoir des doutes, mais visiblement ce serait faisable.
Oui, donc si vous habitez aux Bahamas et que vous avez 24 heures pour laisser le truc recharger, peut-être qu'éventuellement c'est envisageable.
Oui, peut-être, et encore, parce que bon, l'énergie solaire, voilà. Et juste, voilà, j'ai retrouvé le nom, ça y est. C'est le jump câble de Native Union que j'avais backé. Donc ça m'a coûté 45 euros, un peu plus de $50. Et voilà, c'est quand même, c'est un bon produit aussi. Si vous avez besoin d'un système de recharge pour votre téléphone, vous êtes beaucoup en déplacement comme moi, et vous avez besoin d'une petite batterie de secours, pensez sur ce concept-là, le jump cable de Native Union, je conseille. Et pour le voili voilou, nous avons fait le tour des news, je pense. Qu'en penses-tu?
Oui, on a fait le tour des news.
À 1h. Ouh là là, on a débordé. C'est pas grave, nous allons embrayer.
On va pouvoir très vite passer aux mises en évidence, au focus projet voilà. Alors, on verra comment on l'appelle à terme. Mais du coup, sans plus tarder, je vais directement commencer moi avec le premier projet dont je voulais parler. C'est encore une application. Mais qui, elle, pour le coup, a émergé depuis quelques mois. Le concept très simple, c'est de faire des prédictions de temps d'attente dans des lieux publics. Pour le moment, c'est quand même tout jeune, ça n'est effectif que à la bibliothèque publique d'information à Paris, donc c'est quand même un truc très très spécifique. Mais l'idée, c'est justement, en tout cas les créateurs de l'application ont pour idée d'étendre le concept et de le mettre un peu partout. Moi, là où ça m'a intéressé, en fait, ce projet, c'est sur les technologies qu'il utilise. Il y a un certain nombre de technologies qui, moi, me plaisent, notamment dans l'univers Apple, mais je pense qu'il y a le pendant côté Android, qui la technologie iBeacon, enfin tout ce qui est autour du Bluetooth Low Energy, du NFC et tout ça. Et je trouve qu'aujourd'hui on a peu d'usages vraiment intéressants qui en sont faits. L'application Affluence utilise en fait des bornes Bluetooth, iBeacon, etc. et la géolocalisation pour savoir à quel moment vous entrez dans une file d'attente d'un lieu public, à quel moment vous en sortez, ou en tout cas vous rentrez dans le lieu public en tant que tel. Et du coup, avec une batterie d'algorithmes, avec la compréhension du comportement des gens et un certain nombre d'informations, ils sont capables, en fait, depuis l'application, d'afficher les temps d'attente estimés avant même que vous vous rendiez à un endroit. Donc je trouve ça assez intéressant, j'espère que ça va se développer et que ça va pouvoir, parce qu'aujourd'hui c'est quand même très restreint, ils l'ont testé dans un seul endroit très spécifique à Paris, mais je trouve ça plutôt prometteur et je me dis finalement il y aurait des usages intéressants de ces technos-là. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, non, franchement, c'est vraiment très intéressant. C'est une façon d'utiliser toutes les technologies à notre portée, le fait qu'on soit en permanence connecté, une façon de l'utiliser assez maligne, je trouve, assez intelligente, franchement. Et pour te répondre, oui, évidemment, il y a de l'équivalent sous Android. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'application est développée pour Android aussi. Donc, effectivement, c'est pas exactement la même chose, mais
c'est justement
quelque chose dans son sac.
Je parlais en fait avec la personne qui a créé Affluence, qui m'a expliqué effectivement un certain nombre de nuances en fait entre Android et iOS. Et là, pour le coup, on parle vraiment d'une application qui a été développée sur les deux plateformes. Elle n'utilise pas par contre les mêmes technos pour collecter, mais du coup, ce que vous constatez, en fait, en téléchargeant l'application, vous devenez acteur de la collecte d'informations. Pour autant, évidemment, l'information descendante sur les téléphones, que ce soit Android ou iPhone, enfin ou iOS, sera systématiquement la même.
C'est synchronisé sur toutes les plateformes, mais c'est le genre d'application participative, je sais pas, en succès de ce genre-là. On peut parler de Waze, par exemple, pour ce qui est du GPS et du signalement de problèmes sur la route. Ben pourquoi pas effectivement le faire pour des attentes dans les lieux publics, effectivement. Et donc, pourquoi pas étendre même à des autres lieux que le lieu public, hein. Tu pourrais te dire, je sais pas, je vais à Disneyland aujourd'hui par exemple, je vais à Disneyland avec ma fille, dans quelle attraction est-ce que j'attendrai pas trop dans la file, pour pas la faire attendre pour le moment, dans quelle attraction est-ce que je vais, dans quelle... Il y a plein de petits usages vraiment sympathiques, franchement.
Donc peut-être que là, c'est plus un problème de terminologie. Quand je dis lieu public, c'est plutôt les lieux fréquentés par du public. Je pense qu'en l'occurrence, le créateur ne se limite pas à des lieux, typiquement, tu parles de Disneyland ou de choses comme ça, je pense qu'ils seraient amenés à contacter ce type de structure. Enfin, on pourrait, si l'histoire continue et si l'application se développe et le projet se développe, on pourrait les voir s'orienter vers ce type de. Je pense même que c'est dans leur
stratégie. Ouais. Mais ici, j'avais bien compris, je disais simplement en dehors de le public, dans le sens que pour le moment, c'est limité à un seul et unique lieu public.
Ouais,
mais non, c'est vrai que voilà, pourquoi pas effectivement, même dans le business model, hein, vendre ce genre de données, ce genre de technologie aux endroits où tu as plus ou moins l'habitude d'attendre, au parc d'attraction par exemple. J'ai pas une autre idée qui vient de suite, mais. Et ça permettrait à cette société-là d'afficher des temps d'attente.
En l'occurrence. Fait, et en tout cas, leur façon de fonctionner, effectivement, tourne autour de, ou de gagner de l'argent en tout cas, de l'intérêt qu'a la structure à avoir une connaissance des files d'attente et donc de l'affluence. Pouvoir, d'une part, moduler en fait, la quantité de personnes à disposition. Une information importante pour pouvoir faire ça, service, et puis pour pouvoir affiner après tout un nombre de. Enfin, pour pouvoir affiner son service en fonction de l'affluence des gens.
C'est ça, voilà, il pourrait cibler, il y a une telle affluence de telle heure à tel endroit, pour, donc c'est à tel endroit qu'on doit plus mettre d'effectifs entre tel créneau horaire, c'est tel. Et puis même le mettre à disposition du public, pourquoi pas aussi d'application tierce développée par je prends l'exemple de Disney parce que c'est celui qui me vient en tête à cause de ma fille, mais l'application comme ça de ce type là à Disneyland Paris pour savoir où sont les files, à quel moment et à quel moment aller à telle ou telle attraction plutôt qu'à un autre, moi personnellement ça m'enchanterait. Je d'office je l'installe, je vais à Disney et je regarde à quelle attraction je fais, à quelle heure, et je fais mon petit programme, quoi. Donc non, franchement, une idée assez génial, je trouve, et assez bien pensé d'utilisation des technologies modernes.
Donc, affaire à suivre, mais affluence, ça s'écrit avec un S à la fin. Et vous pouvez, depuis affluence.org, ou sinon c'est sur iTunes ou sur Android.
Ce sera dans les notes de l'émission de toute façon, oui, ça je le mettrai de toute façon. Et alors, pour terminer ici avec mon petit projet, c'est aussi une façon de vous simplifier la vie, de permettre des petits automatismes. Je vais essayer de parler d'un site qui est quand même assez connu, donc à mon avis certains d'entre vous en ont sûrement déjà entendu parler, mais je ne l'avais pas encore abordé dans les projets du web. Ça s'appelle tout simplement, enfin c'est pas si simple que ça, ifttt.com. IFTTT, si je me souviens bien, c'est if that then to.
That then that.
Ouais, c'est ça, merci. Voilà, c'était pas then, c'est that. Voilà. Donc s'il se passe ceci, faire ceci, en gros, pour résumer. Donc le principe est très simple et assez, moi je trouve, bougrement génial. C'est qu'on peut créer des automatismes autour d'outils web, c'est d'ailleurs dans la thématique de l'émission, comme par hasard, d'outils web existants. Donc par exemple, on peut décider, ils se synchronisent avec énormément de systèmes, donc les plus connus, Gmail, Evernote, Twitter, Facebook, LinkedIn, Annie.do, tout ce genre d'applications et de services web. Et donc, on peut créer des automatismes. Alors, soit on les crée soi-même, ça nécessite un tout petit peu de paramétrage, mais il ne faut pas énormément de connaissances, honnêtement, pour y arriver. Soit on se sert d'une base de données assez énorme, qui s'appelle les RECIPS, qui sont des créations d'autres personnes qui sont mises en ligne, en fait, et qui permettent de sélectionner des automatismes déjà créés. Donc, pour donner des exemples concrets, je vais vous parler de l'usage que moi j'en ai. J'avais... Bon, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est un exemple parmi d'autres de ce qui est possible. J'avais pour habitude de m'envoyer des emails, il y a très longtemps d'ici, quand je devais prendre en note quelque chose ou enregistrer quelque chose. Et avec ce système-là, en fait, ça m'a permis, via les libellés Gmail, donc via les filtres, d'indiquer à Gmail, voilà, quand il y a tel intitulé, par exemple, le mettre dans tel libellé. Et IFTTT me permet tout simplement de dire, voilà, si dans Gmail, un email arrive avec tel libellé, faire telle action. Donc par exemple, si un email arrive avec la mention note, si je mets un email en important, si je mets noter le contenu dans Evernote. Comme ça, il le sauvegarde tout seul automatiquement. Autre exemple, si un tweet m'intéresse, quelqu'un sur Twitter m'envoie un article qui m'intéresse et que j'ai pas le temps de le lire tout de suite, je veux le sauver quelque part, par exemple, ben j'ai dit à FTTT, si Twitter, je mets un tweet en favori, le sauvegarder dans Pocket. Pocket qui me permet après de relire des articles très facilement, notamment sur ma liseuse. Voilà, c'est quelques exemples très rapides comme ça, mais c'est tout ce type d'usage que permet IFTTT, et vraiment de manière très facile. Si vous allez sur le site que vous vous inscrivez, vous parcourez ce qu'ils appellent les channels, donc les automatismes déjà créés par d'autres, vous sélectionnez les services que vous voulez utiliser pour faire un automatisme, et vous trouverez sûrement votre bonheur parmi tout ça. Il y en a quand même une liste, je ne les ai pas comptés, mais il y en a quelques-uns. Je ne sais pas si toi, tu utilises spécifiquement ce système-là.
Alors, je l'utilisais, je ne l'utilise plus. Déjà, il y a une raison, c'est que, comme tu l'as dit précédemment, tu es sur Android, je suis sur iOS.
C'est vrai que c'est beaucoup Android quand même, c'est beaucoup plus ouvert.
Par définition,
donc
beaucoup plus fermé, voilà. Dans l'essence même du produit, on est un peu contraint au niveau des actions qu'on peut mener. C'est d'ailleurs un bon moyen de s'en rendre compte, d'installer IFTTT, parce qu'on a encore une fois une application qui nous propose un certain nombre d'actions, et donc on voit aussi des actions qu'on ne peut pas faire. Donc ça, c'est une chose. Après, non, ce qui est intéressant, c'est la variété en fait de services associés, et je pense que c'est là-dessus qu'ils ont une force incroyable, c'est la possibilité d'interagir avec un panel de services extrêmement large, et notamment pas que des services applicatifs soit web, soit mobile, mais aussi un certain nombre d'objets connectés, un certain nombre de choses, et donc là on commence à devenir encore plus intéressant. Parce que il fait beau, réduire un peu la température de chez moi, enfin, c'est très basique, hein, ce que je dis, et c'est pas forcément très intéressant. Mais voilà, la variété de services et de liens qui sont faits avec des produits ou services extérieurs rend le champ des possibles énorme. Et donc, en fait, toute la force, c'est de proposer une plateforme aussi ouverte, où tous les acteurs peuvent venir se positionner dessus, proposer des interactions avec leur outil ou leur service.
Et surtout, libre à l'utilisation. Surtout que ça se fait en un simple clic. À partir du moment où il y a une API qui libère des données, eux peuvent derrière l'ajouter à leur service. Donc ils en sont, là je viens de regarder, il y a 163 services différents qui sont proposés. Effectivement, comme tu le disais, avec l'arrivée de plus en plus d'objets connectés, les possibilités sont juste énormes, quoi. On peut synchroniser, comme tu disais, effectivement, avec une application de prévision météo et qui dit s'il fait tel temps dehors, mettre tel degré de chauffage, si il fait noir à telle heure, allumer les lumières seulement à partir de telle heure. Tu peux synchroniser avec les thermostats Nest, avec les Philips Hue, les fameuses ampoules. Tu peux... C'est très difficile à décrire parce qu'il y a un champ de possibilités assez énorme et je commence un peu à manquer de temps, donc j'ai pas envie de trop m'étendre. Mais moi, j'ai parlé effectivement de mon petit quotidien parce que je ne l'utilise que pour le moment que sur des versions de services web parce que j'ai pas encore pris le temps de me consacrer aux objets connectés. Mais voilà, ça étend encore plus les possibles, ça effectivement, c'est clair.
Pour donner un dernier petit exemple, parce que je l'ai vu aujourd'hui, et donc ça me fait penser à ça, une news passée sur les 5 astuces. Alors vous pourrez le retrouver facilement, on essaiera de le mettre dans les notes. Les 5 astuces pour les job seekers, donc pour les personnes en recherche d'emploi, de l'utilisation intelligente de IFTTT, qui permettait entre autres d'ajouter des rappels systématiquement dès que... une annonce correspondante à votre profil était postée, ou de postuler automatiquement, donc de pré-remplir un mail avec votre candidature en fonction de, enfin voilà, il y avait tout un nombre de recettes IFTTT qui étaient très intéressantes pour les personnes en recherche d'emploi pour optimiser, automatiser, systématiser un certain nombre de tâches. C'était assez intéressant. Voilà,
c'est ça au final qui est difficile à décrire, c'est que C'est, en fait, en gros, ce qu'il faut partir de ce postulat, c'est que c'est une énorme quantité de services mobiles, web et maintenant de plus en plus objets qui libèrent des données en permanence. Il y a une permanence des données qui sortent sur tous ces services-là. Et donc, à partir du moment où il y a des données, IFTTT peut quelque chose pour vous, en gros. Donc, si vous avez envie d'extraire une donnée d'un système et de la permettre d'interagir avec un autre système, à partir de là, je vous laisse, voilà, votre imagination fait le reste, vous pouvez créer tout ce que vous voulez comme interaction. Et c'est ça qui est vraiment la grande force de ce système-là, quoi, honnêtement. J'étais assez impressionné. Maintenant, j'ai pas encore, je suis loin d'avoir tout exploré. Je suis d'ailleurs en train de m'amuser à synchroniser avec mon Fitbit pour me mettre des annotations, mais voilà, il y a une quantité. Je vous invite simplement à y aller. Je crois que c'est le plus simple, plutôt que d'en parler, c'est d'aller jeter un œil, d'aller essayer le système et vous m'en direz des nouvelles. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez évidemment pas à nous contacter.
Et vous pouvez du coup partager vos recettes et vos astuces avec nous. On sera ravis d'en avoir des nouvelles et de pouvoir les essayer.
C'est vrai que c'est pas con, comme ça on pourra un peu plus, je pourrais un peu plus compléter. Tu pourras peut-être te remettre à utiliser malgré iOS.
Exactement.
Et je me rends compte que mine de rien, ils ont quand même pas mal de choses. Android est très complet, mais iOS a quand même quelques interactions possibles.
C'est vraiment sur les interactions quasi couche OS en fait qu'on est limité. Donc tout ce qui est paramétrage, tout ce qui est par exemple typiquement la capacité de basculer en mode avion, un certain nombre de choses, qui est plutôt vraiment système d'exploitation.
C'est vraiment des synchronisations de type contact, localisation, notification, des photos et un agenda, quoi. Oui, c'est oui.
Tout ce qui, enfin, de toute manière, ils sont limités par le développeur kit d'Apple qui autorise un certain nombre de choses et qui n'en autorise pas d'autres. C'est déjà extrêmement large de toute manière. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est essayez-le. iOS, Android, peu importe, essayez-le. Et vous verrez qu'en fait le nombre de possibilités est quasi infini.
Et c'est quand vous regardez sur Android, rien qu'ici j'ouvre la section Android pour voir les favoris, tu peux décider de couper la sonnerie à partir d'une certaine heure quand c'est l'heure où tu as l'habitude d'aller te coucher, tu peux déconnecter le wifi à partir du moment où tu coupes tes lampes en fonction de la météo, tu peux... Ouais, c'est vraiment beaucoup plus effectivement de possibilités.
Ouais,
c'est beaucoup plus poussé. Enfin voilà, allez faire un tour, c'est tout ce qu'on peut vous dire et vous nous en direz des nouvelles. Bon, je crois que on a largement débordé le temps qu'on s'était imparti.
Exactement. Bon, c'était.
Parce que pour situer nos amis du public, hein, on avait tablé sur une heure et demie de maximum, mais je crois que voilà, j'ai pas l'heure exacte parce qu'il y a eu un petit blocage à un moment, mais on a largement dépassé à mon avis.
Donc on va conclure rapidement. Je te laisse peut-être conclure.
Voilà. On va simplement conclure en disant les habituels de où on peut nous retrouver à partir de maintenant. Alors petite chose rapide. Pour les gens qui nous suivaient déjà avant, l'URL lesprojetsduweb.net reste active. Je conserve quand même le nom de domaine par facilité. Mais à partir de maintenant, ça redirige vers un espace sur le site PodCloud, dont on vous a parlé dans un projet du web hors série il y a quelques temps, au moment du lancement. Donc PodCloud qui est une super plateforme pour les podcasteurs. D'ailleurs, je recommande vraiment. En plus, ils sont vachement sympas.
Et très réactifs.
Et super réactif, ça c'est clair qu'au moment où on a décidé de relancer, on a fait appel à eux et ils sont assez épatants à ce niveau-là. Donc voilà, si vous voulez nous retrouver, c'est lesprojetsduweb.net ou dans l'annuaire PodCloud, vous pouvez nous chercher, ou sur lesprojetsduweb.podcloud.com tout simplement. Sur Twitter, le compte Twitter c'est @lesprojetsduweb. Rien de plus simple. Facebook, j'avoue que voilà, il faudrait peut-être qu'on relance tout ça, mais c'est pas la plateforme pour le moment de prédilection.
Exactement.
Et alors, pour nous, hein, on va quand même passer à nous. Moi, c'est NotKirby sur Twitter. Et toi, Mathieu, c'est...
C'est Mathieu avec 2TH et après TNSC. Mathieu TNSC. Voilà, je tweete peu, mais bien.
Je tweete bien.
non, je tweete trop peu, mais je vais essayer de corriger ça.
Bah, tu es de retour sur le web, hein, donc voilà, tu vas t'y mettre même via le compte Les Projets du Web que je vous invite à suivre pour les prochaines dates. Et normalement, si tout se passe bien, et je pense que ça se déroulera bien, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode, puisqu'on reprend, ça on ne l'a pas dit, un rythme de toutes les 2 semaines. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour et qu'on va pas s'attarder ici vu le temps un peu débordé. Merci à toi pour cette émission.
Merci beaucoup, j'espère que les auditeurs seront contents et puis donc dans 2 semaines.
Voilà, et faites-nous part de vos commentaires, et très content d'être de retour parmi vous, et à bientôt alors. Ciao à tous.
Ciao.